On parle beaucoup ce matin évidemment de la Catalogne, autre région du monde à réclamer son indépendance, là aussi une province riche, la comparaison s'arrêtera là, le Kurdistan irakien. Pour situer sur la carte rapidement, bordé à l'est par l'Iran, à l'ouest par la Turquie, au sud par la Syrie, relié par l'État fédéral à l'Irak, 93% de oui donc au référendum la semaine dernière, depuis Bagdad qui refuse de laisser partir ses terres bourrées de pétrole fait monter la pression. On va voir comment les Kurdes peuvent s'en sortir. Frédéric Tissot, docteur Tissot, merci d'être avec nous. Vous enseignez à Sciences Po Paris, vous êtes l'ancien consul général de France à Erbil, au Kurdistan. Vous en rentrez justement d'Erbil et vous y étiez il y a quelques jours à peine. Quelle est l'ambiance, quel est l'état d'esprit sur place?
Écoutez, elle est bien meilleure que ce que je viens d'entendre en Catalogne. En tout cas, là-bas, c'était très bon enfant, c'était dans une très bonne ambiance et extrêmement sécurisé et calme. Mais comme quoi, la démocratie, c'est toujours extrêmement difficile à obtenir, y compris en Europe. Écoutez, les Kurdes sont tout à fait satisfaits parce que 72% de participation, 93% de oui. Ceux qui ne souhaitaient pas voter, ou non, pardon, ceux qui souhaitaient voter non n'y sont pas allés, d'où cette plus faible participation. Les réactions, bien entendu, on les connaissait déjà, hein, des pays alentours que vous avez cités. Bagdad, l'espace aérien actuellement est fermé. Il y a eu des...
Depuis vendredi dernier.
Depuis vendredi 18h. Cela ne devrait pas être une catastrophe, bien entendu, pour la région. D'autant plus que ceux qui ferment l'espace aérien, le Kurdistan n'a pas de compagnie, et c'est surtout les compagnies aériennes extérieures qui vont perdre quelque chose, et les pays alentours qui ont de forts intérêts commerciaux, économiques avec cette région.
On va revenir sur évidemment la réaction des voisins, mais d'abord pourquoi l'indépendance était-elle devenue aussi nécessaire et peut-être même urgente pour les Kurdes?
Parce que cela fait 100 ans que ça dure. 100 ans, c'est beaucoup. Il y a eu énormément de trahisons, de bombardements chimiques, de maltraitances de la part du gouvernement de Bagdad. Cela fait depuis 2003 et même depuis 2005, depuis la constitution irakienne, il n'y a jamais eu d'entente avec Bagdad, entre Erbil et Bagdad, même si la région avait un statut autonome qui était conféré par la Constitution.
Comment s'entendent les Arabes et les Kurdes, puisque c'est de ça dont il s'agit?
Oui, c'est effectivement de cela qu'il s'agit. Les Kurdes ne sont pas des Arabes et les Arabes ne sont pas des Kurdes. Ni la même religion, ni la même langue, ni la même géographie.
Quels sont leurs rapports aujourd'hui?
Tendu. Les Kurdes ont été très proches de l'armée irakienne lorsqu'il a fallu combattre Daesh. Et ils étaient très proches d'ailleurs, vous le savez, très proches, et en Irak d'ailleurs, et en Syrie aussi, hein, de la coalition internationale pour être les premiers sur le front pour combattre Daesh.
Et 1700 tout cela, Peshmerga ont perdu la vie, 10 000 blessés.
Tout à fait. Et on les connaît tous, ces Peshmerga, et ces hommes et ces familles qui ont perdu des leurs au combat. Ils s'entendent mal, comme je le dis, mais comme Barzani l'a dit, pardon, nous ne voulons pas de guerre. Nous voulons divorcer, parce que ça fait très longtemps qu'on nous a mariés de force. Nous voulons divorcer calmement, tranquillement, devant la communauté internationale, devant les autorités juridiques qu'il faut.
Alors Frédéric Tissot, l'indépendance à tout prix, vous croyez-vous encore que la négociation entre Bagdad et Erbil est possible? C'est quoi l'alternative si ça échoue?
Bien sûr que c'est possible. Il faudra trouver, les différents partenaires que sont Bagdad et Erbil devront trouver une façon de continuer à vivre ensemble, en tout cas de vivre les uns à côté des autres.
Parce qu'on a la pression de la Turquie, la pression de l'Iran, la pression donc de Bagdad, vous croyez vraiment que tout ça...
Il y aura toujours des pressions des uns et des autres. Mais laissons ceci de l'autre côté, parce que chacun a ses propres intérêts. Les Turcs ont d'énormes intérêts économiques. Hein, c'est eux qui reçoivent tout le pétrole et le gaz. Je rappelle que la Russie, on n'en parle pas beaucoup, mais vient quand même le 17 septembre de signer un énorme contrat gazier avec le Kurdistan. Monsieur Tillerson, le secrétaire d'État, lorsqu'il était patron d'Exxon, le secrétaire d'État américain avait signé, lui aussi, des accords tout à fait intéressants.
Donc on a besoin du Kurdistan irakien. Dernière question, vraiment rapidement, il nous reste quelques secondes, Frédéric Tissot. Quelle est l'alternative? Qu'est-ce qui peut se passer s'il n'y a pas la négociation?
Il ne peut y avoir qu'une négociation, c'est tout. Et j'espère que la communauté internationale, et notamment la France, participera à cette négociation.
Si ce n'est pas la négociation, c'est quoi?
Ça sera la guerre. Et je ne pense pas que, quel que soit le pays, qu'il souhaite la guerre, alors que 92% de cette population s'est exprimée, normalement, comme elle en avait le droit, pour son indépendance.
Vous croyez que la communauté internationale viendrait au secours des Kurdes, Frédéric Tissot, ancien consul général de France à Erbil au Kurdistan, enseignant à Sciences Po Paris, auteur de L'Homme de Bush et Stock. Je vous remercie beaucoup.
Bien sûr qu'elle viendra à son secours
par notre
cette communauté
ce matin.
Internationale.
Merci Frédéric Tissot. Interview à réécouter évidemment sur franceinter.fr.